Je passe maintenant à la présentation de la conférencière de ce soir, Danielle Blondel. Danielle Blondel est économiste, elle est professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, où elle enseigne sa spécialité, c'est l'économie de la recherche et de l'innovation. Elle est professeure d'économie donc à Paris-Dauphine depuis 1976. Je vais donner quelques éléments de son parcours. Entre 1982 et 1985, elle a été directrice des enseignements supérieurs au ministère de l'Éducation nationale. Entre 1989 et 1992, elle a été membre du Comité national d'évaluation de la recherche. Entre 1993 et 2000, membre du CADAS, qui était le comité des applications de l'Académie des sciences, qui est devenu l'Académie des technologies, dont elle est membre depuis l'an 2000. Depuis 1999, elle est également membre de l'Institut de management de la recherche et de l'innovation, l'IMRI, à Dauphine. Et depuis 2000, elle est directrice de l'incubateur Agoranov, qui est un incubateur de jeunes entreprises fondées sur la recherche. Elle s'intéresse aux relations entre l'innovation, la croissance et l'emploi dans une perspective néo-schumpeterienne. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle est l'auteur et co-auteur de différents ouvrages, j'en cite quelques-uns. Essai sur la nouvelle théorie quantitative de la monnaie, en collaboration avec Claude Jessua, paru au PUF en 1970. Elle est également l'auteur de l'inflation de croissance, en collaboration avec Jeanne-Marie Parly, paru au PUF en 1977. Elle a notamment écrit L'innovation pour le meilleur et pire le pire, et pour le pire, pardon, paru chez Attier en 1990, et elle a participé récemment à un ouvrage sous la direction de Norbert Alter qui s'intitulait Les logiques de l'innovation, qui est paru en 2002. Voilà, Danielle Blondel, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec la salle d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord faire une remarque sur la participation de cette conférence à cette session sur la globalisation. En effet, la question que je vais poser ce soir, c'est-à-dire celle des enjeux présents et futurs de la répartition des ressources cognitives, de la répartition mondiale des ressources cognitives, peut paraître paradoxale ou même, plutôt, vide de sens. En effet, quand on parle de ressources cognitives, on pense naturellement au savoir, et l'université de tous les savoirs en est une vivante illustration. Mais les savoirs, c'est aussi, la plupart du temps, connoté science, c'est-à-dire produit de la science. Or, la science, par nature, est globale. La science, par nature, est universelle. Et la meilleure preuve, c'est que ce mot de l'université, ce terme de l'université, représente le lieu par excellence de la production et de la diffusion des savoirs. Donc, nous pensons la science comme un lieu où les relations entre les chercheurs sont des relations de coopération, sont des relations transfrontières, sont des relations donc qui ont tout à gagner de la globalisation actuelle, telle qu'on se la représente au travers des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, a priori, une interrogation implicite sur les effets négatifs de la globalisation en matière de répartition paraît un peu étrange. En fait, on pourrait se dire que, justement, la globalisation permet encore plus qu'auparavant de diffuser, de répandre sur l'ensemble du monde les résultats des recherches scientifiques, les produits de la science. Si on va encore un tout petit peu plus loin et qu'on s'interroge sur ce mot de répartition, on peut avoir a priori l'impression que ce mot est très très mal adapté à la science et au savoir. En effet, répartir, qu'est-ce que c'est ? Répartir, en réalité, c'est partager une ressource rare. Quand on partage et qu'on répartit un gâteau, chacun reçoit sa part. Et cette part, il va en disposer soit pour la manger, soit pour la donner, soit pour la revendre. Mais une fois qu'il l'a mangée, donnée ou vendue, il ne peut plus en disposer. Donc, d'un côté, la logique du partage ou de la répartition évince un certain nombre de personnes. On dit que il s'agit de répartir un bien qui est rival, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité dans l'allocation de ce bien, Et d'autre part, celui qui transfère un bien, dans cette logique, ne peut plus en disposer. Or, il en est tout autrement de la science et des produits de la science. La science, il faudrait plutôt lui appliquer la métaphore de la multiplication des pains. En effet, le transfert d'un savoir, quel que soit le savoir d'ailleurs, que ce soit un savoir scientifique ou un savoir-faire, le transfert d'un savoir à quelqu'un d'autre n'empêche pas celui qui l'a transféré d'en profiter lui-même et de continuer à en profiter une fois qu'il l'a transféré. Chose encore plus miraculeuse, le savoir ne se détériore pas par l'usage. Bien au contraire, l'usage d'un savoir enrichit ce savoir parce que ce premier savoir, en quelque sorte, intègre tous les savoirs qui coopèrent dans une action commune. Par exemple, il est clair qu'un ouvrier qui a une bonne expérience, qui a un savoir-faire important, acquis par un apprentissage sur le tas, va naturellement en profiter lui-même de ce savoir-faire, va en faire profiter son employeur, mais il va aussi en faire profiter toute l'équipe avec laquelle il travaille, il va aussi en faire profiter les fournisseurs avec lesquels il coopère pour fabriquer un objet, il va aussi en faire profiter les usagers de l'objet qu'il fabrique. Donc, le savoir, on peut avoir l'impression que le savoir est une ressource absolument inépuisable et qui peut être surtout exploitée gratuitement. J'ai donné l'exemple de l'ouvrier dans son équipe, mais donc les membres de l'équipe peuvent l'exploiter, mais on peut penser aussi au fait qu'un élève peut exploiter le savoir de son maître sans que le maître en soit frustré. On peut penser aussi à tout l'ensemble du monde qui peut profiter des savoirs émis par des laboratoires de recherche publique. On parle alors en économie de quelque chose qui peut paraître un peu barbare, c'est-à-dire d'externalité. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité ? Une externalité, c'est le fait que certains individus, entreprises, régions, pays peuvent profiter d'un bien sans qu'il en ait coûté quoi que ce soit pour produire ce bien. Ou bien ce bien a existé dans l'environnement, en quelque sorte, gratuitement, ou bien il a été produit par quelqu'un d'autre pour faire autre chose, mais il y a multiplication, en quelque sorte, des usages possibles de ce bien au-delà de l'usage premier. Donc, a priori, le savoir, le produit de la science, c'est par excellence un produit non rare. C'est un produit non rare, ce qui évidemment est très très perturbateur pour un esprit d'économiste, puisque les économistes ont l'habitude de travailler sur justement la meilleure répartition de ressources rares. Dans ces conditions, la question que je pose ce soir peut paraître un non-sens. Parler de répartition de ressources qui ne sont pas rares, enfin dont leur nature fait qu'elles sont inépuisables et qu'elles sont accumulables pratiquement sans coût, cela peut paraître véritablement un non-sens. Et cela peut paraître un non-sens d'autant plus grand que tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'économie a pour un de ses moteurs principaux, justement, les savoirs. Donc ne sommes-nous pas à l'aube d'une économie extraordinaire où tout le monde pourrait bénéficier pratiquement sans payer, ou en tout cas sans beaucoup payer, de cet input extraordinaire, miraculeux en quelque sorte, qu'est le savoir. Donc, est-ce que je ne suis pas en train de vous poser une question anachronique ? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas en train de vous poser une question qui n'a de sens que dans l'économie du passé, c'est-à-dire dans une économie où les ressources, toutes les ressources, sont des ressources naturelles, par définition, empreintes de rareté. Ne suis-je pas en train, finalement, d'appliquer, selon l'adage célèbre, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, l'analyse de la répartition des ressources pétrolières à la répartition des idées, à la répartition des savoirs. Et allant encore un peu plus loin, ne devrions-nous pas cesser de nous préoccuper de cette question ? des répartitions des ressources et laisser faire la science et les scientifiques qui, par la nature même de leur activité, paraissent, en tout cas en première analyse, les meilleurs diffuseurs de la ressource principale de l'économie aujourd'hui. Donc une ressource, je le répète, qui ne s'use pas, qui s'accumule, qui progresse au rythme de l'intelligence humaine, donc qui est doublement inépuisable, puisqu'on peut penser, espérer que l'intelligence humaine est inépuisable et que d'autre part, cela s'accumule en s'enrichissant. Malheureusement, cette thèse très optimiste que nous irions, selon laquelle nous irions vers une économie de non-rareté, grâce au savoir, grâce à l'importance des savoirs dans l'économie, malheureusement, cette hypothèse est assez discordante ou mise en cause par un certain nombre de faits. Beaucoup de faits montrent qu'il y a plutôt un système de processus cumulatif vertueux d'un côté, vicieux de l'autre, qui élargissent la fracture entre les individus et entre les nations, et entre les pays, et entre les régions, et entre les entreprises, et qui, sont vraiment tout à fait orthogonales, je dirais, par rapport à l'hypothèse que je viens d'émettre. Parmi ces observations, je n'en citerai que deux, mais qui sont assez révélatrices. Premièrement, l'observation de la course à la brevetabilité des produits de la science. Nous constatons en effet que le système des brevets, qui est un système d'appropriation privée de savoir technique, mais de savoir technique qui était le fait des inventeurs, qui était le fait des ingénieurs, ce système d'appropriation privée des savoirs remonte vers la science. Et nous en sommes maintenant à nous poser la question de la brevetabilité d'un certain nombre de produits qui sont des produits non pas techniques, mais purement scientifiques, tels que les gènes, par exemple, en biotechnologie, et tels que les logiciels, qui ne sont pas autre chose à l'origine que des algorithmes mathématiques. Donc ça, c'est le premier fait qui, si j'ose m'exprimer ainsi, met un peu la puce à l'oreille. Est-ce que, véritablement, il y aurait non-appropriabilité de ces ressources extraordinaires que sont les savoirs ? Le deuxième fait, sur lequel je reviendrai à la fin de cette présentation, le deuxième fait est celui de qu'on appelle maintenant la migration des cerveaux. Nous constatons en effet que les flux internationaux des élites scientifiques n'obéissent pas, comme on pourrait s'y attendre, selon l'hypothèse émise précédemment, n'obéissent pas à la loi des vases communicants, mais obéissent bien à des lois de processus cumulatifs. Il y a fuite des cerveaux depuis les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources cognitives vers des pays qui ont déjà beaucoup de ressources cognitives. Et à l'inverse, bien sûr, il y a, en tout cas c'est le mouvement général, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a accumulation de ressources cognitives là où elles sont déjà importantes. Donc il semble bien que, à cause même, en fonction même de la transformation des savoirs en input économique, la singularité de la connaissance, qui est d'être un bien non rival, un bien non rare par conséquent, cette singularité disparaît à mesure que les savoirs deviennent des investissements. À mesure que l'économie privée cherche à récupérer les externalités émises par exemple par la recherche publique, pour une appropriation dans le cadre de la recherche, tout simplement, de rendement de ces savoir. Donc nous sommes en face d'une question lourde. L'économie de la connaissance, qui devrait théoriquement donner sa chance à tous, y compris à ceux qui sont dépourvus de ressources naturelles et qui sont à l'heure actuelle pauvres, ressources naturelles ou capital financier par exemple, donc cette économie de la connaissance qui devrait théoriquement leur donner des chances nouvelles, grâce à la diffusion de cette ressource sur l'ensemble du monde, eh bien, on peut se demander si cette économie de la connaissance n'est pas, au contraire, un accélérateur de la dynamique de l'échange inégal. Le mouvement est-il irréversible ? Peut-on concevoir des mécanismes régulateurs ? C'est sur ces questions que je voudrais maintenant vous proposer trois étapes, finalement, de réflexion. Premièrement, un petit voyage au pays de ce que l'on appelle la knowledge-based economy, l'économie fondée sur la connaissance. Ensuite, un tableau rapide, bien sûr, parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire, de la compétition des entreprises à l'intérieur donc de cette économie de la connaissance. Et troisièmement, si j'ai encore un petit peu de temps, un exemple des défis de cette économie de la connaissance et de, du laisser-faire de cette économie de la connaissance, l'émigration internationale de cerveau. Donc tout d'abord, petit voyage dans un continent qui était encore inconnu il y a une trentaine d'années, l'économie fondée sur la connaissance. Quand je dis que le pays était inconnu, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque tous les économistes, depuis Bodin au XVIe siècle, en passant par tous les classiques, Smith, Stuart Mill, List, Marx, etc., tous ces grands économistes avaient relevé l'importance pour l'économie de ce qu'ils appelaient l'ingéniosité humaine, et que d'autres ont appelé par la suite le progrès technique dans la dynamique économique. Toutefois, il faut très clairement dire que l'économie traditionnelle, l'économie que j'ai encore enseignée pendant toute ma carrière et qui est encore très largement enseignée dans les universités du monde entier, c'est l'économie des biens matériels. L'économie des biens matériels, tant au niveau de la production, on met des biens matériels comme input dans un processus de production et on sort un output qui sont des biens matériels. Au niveau de la consommation, on pense essentiellement à la consommation de biens matériels. Ça a d'abord été les biens, bien sûr, correspondant à la nourriture, à l'habillement, les biens d'usage courant, etc. Maintenant, ce sont des biens de plus en plus compliqués, complexes, mais il n'empêche qu'on pense essentiellement à des biens matériels. Et puis, au niveau de l'échange, bien sûr, puisque l'échange, ça n'est pas autre chose que la rencontre de la production et de la consommation. Au niveau de l'échange, toute l'économie de l'échange, l'économie des marchés, est fondée sur l'hypothèse que l'objet même de l'échange est un objet matériel. Donc qu'est-ce que la croissance dans cette économie traditionnelle ? La croissance, c'est l'augmentation de la production par tête de biens matériels. Cette économie, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, se développe sous la contrainte de rareté des ressources naturelles, rareté des biens, des matières premières, rareté de l'énergie, etc. Et les grands modèles classiques, les grands modèles ricardiens, marxistes, etc., explicitent en quelque sorte la dynamique réciproque entre l'ingéniosité humaine, qui va déterminer donc les processus de production, et ces fameuses ressources naturelles. Et bon, un bon exemple, je crois, pour montrer en quoi l'ingéniosité humaine intervient dans l'accroissement de la productivité, puisque c'est de cela dont il s'agit, et le passage, il y a très longtemps de cela, de l'économie de cueillette à l'agriculture. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'en prenant une graine et en la mettant dans la terre, on pouvait obtenir beaucoup plus de graines qu'en cueillant directement le fruit, évidemment, à partir de ce moment-là, on était dans cette dynamique de l'ingéniosité humaine. Donc c'est vrai que la science, les savoirs ont toujours été présents dans l'économie politique. Mais les modèles traditionnels sont restés pessimistes parce qu'ils sont restés sur l'idée que ce qui structurait finalement tout de même les échanges économiques entre les hommes, c'était la contrainte de rareté. Et donc ils ont tous supposé, jusque très récemment et encore maintenant dans beaucoup de modèles, que les facteurs de production ont un rendement décroissant. Épuisement des sols, productivité décroissante du travail ou du capital, etc. Donc, dans cette logique d'allocation des biens rares, dans cette logique, les savoirs ou la connaissance ne sont finalement que des ingrédients que l'on rajoute, des sortes d'épices que l'on rajoute dans la fonction de production pour reculer un peu, pas à pas, cette contrainte de rareté, c'est-à-dire que les savoir-faire permettent par exemple d'aller plus vite pour faire quelque chose, d'économiser du travail, donc c'est tout ce qu'on regroupe sous la notion de productivité, et les savoirs intellectuels purs, si j'ose dire, permettent de construire des outils qui vont permettre aux hommes d'être plus efficaces dans cette fonction de production. Donc, elle est là, les savoirs sont là dans l'économie depuis toujours.
Et les savoirs, en particulier, se traduisent par les investissements, bien entendu, qui sont des investissements en machines. Toutefois, et c'est la grande différence avec l'économie que nous connaissons aujourd'hui, ces savoirs restent exogènes à l'économie, c'est-à-dire qu'ils sont produits ailleurs que dans l'économie. Ces savoirs viennent d'ailleurs. Les entreprises n'investissent pas dans la production de savoirs dans cette économie traditionnelle. Elles ne vendent pas les savoirs en tant que tels, elles les utilisent. Elles piochent, en quelque sorte, dans des stocks de savoirs qui sont accumulés ailleurs. Alors, où sont-ils accumulés, ces savoirs? Ils sont accumulés aux confins de l'économie et de l'éducation, c'est-à-dire à la porte de l'éducation, si je puis dire, lorsque les gens sortent du système éducatif. Et puis, ils sont accumulés, bien sûr, dans les laboratoires de recherche. Donc, traditionnellement, le progrès technique est exogène. Le progrès technique tombe sur l'économie comme une manne qui tombe du ciel. Et là, on peut se dire, et c'est d'ailleurs ce que les économistes néoclassiques cette fois-ci se sont dit, que tout le monde pouvait en profiter, puisqu'elle tombe du ciel sans qu'on ait besoin de la produire. Cette manne, bien entendu, devrait avoir une vertu égalisatrice. Les faits donnent tort à cette tradition, et les faits ont été reconnus justement depuis une trentaine d'années. Que constatons-nous en effet ? Nous constatons un certain nombre de choses tout à fait révélatrices. Dès 1980 aux États-Unis, la part des activités d'information, alors quand je parle d'information, il s'agit d'éducation, de recherche, de communication, de médias, d'informatique, surtout, eh bien, dès 1980, ces activités représentent plus d'un tiers du produit intérieur brut. L'emploi dans ces activités croît encore plus vite. Et en 1997, on a pu calculer que 35% de la valeur ajoutée des entreprises, je dis des entreprises, hein, c'est-à-dire de l'économie au sens strict du terme, 35% de la valeur ajoutée des entreprises venait des secteurs fondés sur les savoirs. Les secteurs fondés sur les savoirs, ce sont les secteurs producteurs de savoirs ou les secteurs utilisateurs de savoirs. Parlons à ce moment-là de l'informatique, du spatial, des télécoms, etc. Donc 35% de la valeur ajoutée est produite par ces secteurs. Si nous regardons du côté des investissements, les chiffres sont encore plus parlants. Depuis 1990, aux États-Unis, le ratio des investissements immatériels sur le total des investissements a dépassé 50%. Et dans ces investissements immatériels, on peut calculer, tout ça est très compliqué à définir, mais on peut calculer que la moitié sont des investissements de connaissances. Donc finalement, un quart des investissements à l'heure actuelle, des investissements des entreprises, un quart des investissements sont consacrés à la production ou à l'acquisition des savoirs. Et je pense qu'il ne vous sera pas indifférent de savoir qu'en 2003, si vous ne le savez pas déjà, le plan de relance des États-Unis comprend une augmentation de 13,8% du budget de la recherche-développement, qui atteint naturellement de ce fait un niveau record. 13,8% de croissance, c'est 4 à 5 fois ou 6 fois, je ne sais plus, plus que le taux de croissance du PIB lui-même. Donc le mouvement est lancé depuis une quarantaine d'années, disons, parce qu'on a mis du temps à le détecter. Il est clair, il semble irréversible. La production, les investissements et l'emploi des secteurs producteurs ou utilisateurs de savoir sont devenus le moteur essentiel, ou en tout cas un des moteurs essentiels de la dynamique économique. Alors, ces savoirs, que sont-ils ? Ces savoirs, que sont-ils ? Il est clair que ces savoirs ne sont pas ni les découvertes scientifiques pures et dures, telles qu'on peut les trouver dans les publications scientifiques, sinon on n'aurait pas besoin de gens pour les produire à l'intérieur des entreprises, ni les informations que je qualifierais d'inertes, que l'on trouve par exemple sur le net. En réalité, les savoirs qui vont être féconds pour l'économie sont une combinaison de quatre savoirs fondamentaux, de quatre types de savoirs fondamentaux, qui se mêlent inextricablement et continuellement dans le savoir ou la compétence de chaque individu ou de chaque organisation. Quatre savoirs. Le savoir scientifique, bien sûr. mais aussi le savoir-faire. Depuis longtemps, on faisait remarquer que les savoir-faire étaient également importants. Depuis peu, on a découvert deux autres savoirs, enfin on a émis l'hypothèse que deux autres savoirs étaient aussi importants. Le savoir quoi, c'est-à-dire l'information pure et simple, et c'est ce qui fait l'activité principale des technologies de l'information et de la communication, les bases de données, etc. Et puis, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, qui est le savoir relationnel, ce que les Américains appellent « know who », c'est-à-dire savoir qui est qui, savoir qui fait quoi, savoir à qui on peut s'adresser pour obtenir quelque chose. Ces quatre savoirs composent donc une compétence pour un individu ou pour une entreprise qui finalement procède à la fois de l'éducation et de la formation, ça va sans dire, mais aussi du travail, parce que c'est au travers du travail que l'on apprend, mais aussi de l'environnement, environnement culturel, environnement familial, etc. Et ceci est très important pour les processus cumulatifs sur lesquels j'insisterai en conclusion. Donc ces savoirs sont mêlés et ils se mêlent dans des processus où nous avons plusieurs types d'apprentissage. Le learning by doing, apprendre en faisant, le learning by using, apprendre en utilisant des machines, par exemple, ou de nouveaux procédés, et le learning by interacting, apprendre en travaillant avec d'autres. La gestion de cette ressource pour les entreprises, donc nous sommes dans l'économie, là, donc nous sommes dans les entreprises, la gestion de cette ressource est très compliquée, parce qu'elle ne se trouve pas, comme disent les Américains aussi, sur les étagères. On ne la trouve pas sur les étagères, ou plus exactement, ce qu'on trouve sur les étagères sous forme de brevets, sous forme de notices, etc., est très minoritaire par rapport à ce dont on a besoin. Donc, elle ne se trouve pas sur les étagères, elle ne se trouve pas non plus sur des marchés, puisque sur des marchés, justement, il faut mettre des choses qui étaient auparavant sur les étagères. En réalité, ces savoirs, ces compétences, comme leur nom l'indique pour les compétences, sont intégrés dans des personnes ou dans des collectifs de personnes. Ils sont donc intégrés à des personnes et à des pratiques dans des lieux. La plupart des compétences sont des compétences locales, sont des compétences relevant finalement de la pratique de travail ou de la pratique sociale. Donc il ne suffit pas d'acheter les savoirs et de les exploiter. Que vont donc faire les entreprises ? Les entreprises vont faire deux choses, ou on constate qu'elles vont faire deux choses. Premièrement, elles vont s'efforcer de capter toutes ces fameuses externalités dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont une ressource cognitive gratuite, ou quasi gratuite. Et lorsque ces externalités ne suffisent pas, lorsque, outre bien sûr tout ce qu'on a acquis sur un marché, tout ce qu'on a acquis gratuitement grâce aux externalités, on a encore besoin de ressources cognitives pour faire ce que l'on cherche à faire, elles vont produire elles-mêmes de la connaissance, ou plutôt coproduire avec d'autres les savoirs spécifiques qui leur sont nécessaires. Et c'est là que nous voyons apparaître des relations qui ne sont plus des relations de marché, qui sont des relations hors marché, qui sont parfois monétarisées, mais qui sont hors marché, telles que les contrats avec les laboratoires de recherche, tels que les réseaux soit d'industriels eux-mêmes, soit d'industriels liés à des laboratoires de recherche, soit réseaux de chercheurs, transfert de chercheurs depuis les laboratoires jusqu'aux entreprises, etc. Donc toutes ces unités de production, toutes ces entreprises qui recherchent essentiellement la compétitivité vont utiliser des stratégies multidimensionnelles pour non seulement capter, intégrer, internaliser des savoirs qui leur viennent de l'extérieur, mais aussi produire des savoirs au fur et à mesure des besoins. Et il faut bien comprendre à ce moment-là que cela leur coûte quelque chose. Il y a donc un investissement dans cette production ou coproduction de savoirs, même si elles peuvent bénéficier à ce niveau d'économies d'échelle importantes, puisque plus on a de savoirs, finalement, plus on est productif en termes de savoirs. Et ce sont ces stratégies qui vont définir les nouveaux modes de concurrence. Alors, quels sont les nouveaux modes de concurrence ? C'est le deuxième point sur lequel je serai un petit peu plus rapide, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, finalement, au travers du premier point. Quels sont les nouveaux modes de concurrence, les nouveaux modes de sélection de cette économie fondée sur la connaissance ? La concurrence, ça existe depuis toujours en économie, mais la concurrence a été très longtemps considérée comme uniquement une concurrence par les coûts, par les prix. Et c'est la raison pour laquelle on pensait surtout le progrès technique en termes d'abaissement des coûts. Aujourd'hui, la concurrence se fait par l'innovation. Et l'innovation n'est pas seulement une innovation de procédé qui permet d'accroître les coûts, mais d'abaisser les coûts et donc d'augmenter éventuellement la marge. L'innovation, c'est aussi et peut-être surtout la possibilité d'offrir de nouveaux produits ou d'offrir des produits améliorés à tous ceux qui sont saturés, en quelque sorte, des produits traditionnels. Donc la concurrence va se faire essentiellement par la différenciation. Et dans cette recherche de différenciation donc d'une entreprise par rapport aux autres entreprises du même secteur, par exemple, les savoirs vont être naturellement une ressource stratégique. Mais, bien évidemment, concurrence par la différenciation, ça veut dire tout de même qu'on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. Donc, simultanément à cette recherche de différenciation, de produits nouveaux, etc., les entreprises vont devoir minimiser leurs coûts. Et c'est la raison pour laquelle, et j'y reviens, elles vont chercher à capter ces savoirs, ressources stratégiques, au meilleur coût. Premièrement, en capturant et en internalisant les savoirs extérieurs. Deuxièmement, en valorisant les rendements de l'exploitation de ces savoirs. Capture, tout d'abord, et internalisation des savoirs extérieurs. Je vous l'ai dit déjà, les savoirs sont presque tous portés par ce que l'on appelle, d'un mot un peu barbare et pas très joli, le capital humain. Donc, la capture de ces savoirs externes pour les internaliser va se faire au travers de la gestion, au travers de la politique de recrutement essentiellement ou de coopération. Dans cette nouvelle économie, en réalité, il y a des choses explicites et il y a des choses cachées. Ce qui est explicite, c'est l'agressivité, dans certains cas, des entreprises pour la capture, justement, du capital humain ou ce qu'on peut appeler aussi les élites scientifiques et technologiques. C'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est le marché des chasseurs de têtes. C'est le marché sur lequel opèrent les chasseurs de têtes. Donc il est clair que là, c'est contre l'autre que l'on va essayer d'avoir l'exclusivité de cette ressource humaine. Mais les choses sont souvent plus subtiles, peut-être d'ailleurs tout aussi prédatrices ou tout aussi sélectives, mais plus subtiles. La plupart du temps, on va mettre en avant une logique que l'on appelle souvent la logique du win-win, la logique du gagnant-gagnant, c'est-à-dire une logique de coopération, mais de coopération sélective. Autrement dit, on va chercher, justement, comme les savoirs s'entremêlent et se produisent ensemble des économies externes, on va chercher à travailler avec ceux qui sont les plus capables de diffuser à l'intérieur d'un collectif de travail ces fameuses économies externes. Et c'est là que nous retrouvons ce que j'ai évoqué à l'instant, c'est-à-dire, par exemple, la coopération par les réseaux. Ça serait très bien la coopération par les réseaux si, effectivement, enfin, ça serait très bien du point de vue égalitaire, si tout le monde pouvait entrer dans les réseaux. Mais vous comprenez bien qu'en cherchant à avoir les meilleures ressources externes, à capter les meilleures externalités, les têtes de réseau, si j'ose dire, les promoteurs de réseaux, ou ceux qui sont à l'origine de la création de ces réseaux, vont jouer à parité. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte que les meilleurs viennent chez les meilleurs. Donc, nous allons avoir des réseaux d'excellence qui vont être eux-mêmes entraîné dans un processus cumulatif très fort, puisque à mesure qu'ils produisent des savoirs, ils vont attirer de plus en plus des savoirs d'excellence. Et à côté de ces réseaux d'excellence, vous allez avoir soit des gens qui ne peuvent pas entrer dans les réseaux, soit des réseaux de second degré. Donc je dis que c'est aussi sélectif que la logique agressive de concurrence traditionnelle, je dirais, qui porte sur les hommes. C'est une concurrence dans laquelle on chasse vers l'extérieur tous ceux que l'on considère comme ne pouvant pas être coproducteurs avec vous de ressources cognitives. Donc ces deux logiques sont prédatrices, je pourrais dire, puisqu'elles vont attirer, la première c'est évident, la deuxième, les réseaux vont attirer dans des points bien déterminés, sur des pôles bien déterminés, tout ce que l'on peut trouver comme compétences dans le monde entier. Deuxième chose, la valorisation de ces savoirs et l'appropriation des rendements. Bon, que dire ? Je l'ai dit tout à l'heure, l'appropriation des rendements de l'exploitation de ces savoirs, elle va se faire essentiellement par la brevetabilité des savoirs. La brevetabilité, qu'est-ce qu'elle confère ? Elle confère un monopole d'exploitation. Monopole d'exploitation, et c'est ce monopole d'exploitation qui va déclencher une rente de monopole. Et ce qu'il faut bien voir, tout ça c'est relativement banal, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette rente de monopole va conférer à ceux qui ont déjà eu un monopole la puissance financière et la puissance cognitive qui va leur permettre de proche en proche ou par une succession d'innovations, une succession de brevets, de conquérir éventuellement tout un secteur, de faire une sorte d'arborescence de tous les savoirs internalisés et exploitables à l'intérieur d'une entreprise ou d'un groupe. Donc là aussi, c'est une logique dans laquelle il y a les insiders et les outsiders. Enfin, il y a les gens qui sont dedans et il y a les gens qui sont dehors. Conséquence de ces deux grands champs de la concurrence, donc la concurrence par la coopération et les réseaux, etc., et la concurrence par les brevets, deux conséquences, me semble-t-il. Tout d'abord, la possibilité de conflit d'objectifs entre les objectifs privés et les objectifs publics dans l'exploitation des savoirs. Puisqu'en effet, je l'ai dit, les entreprises privées vont essayer de capter et d'exploiter les externalités. Ces externalités peuvent venir, par exemple, de la recherche publique, financée par la puissance publique. Et il n'est pas sûr que l'exploitation que les entreprises privées vont en faire soit conforme aux objectifs de la puissance publique. Je n'en donnerai qu'un exemple, il est bien connu. C'est celui, par exemple, de l'exploitation de la recherche bio par rapport aux différents types de maladies. Il est clair que le marché va pousser, et c'est logique, va pousser les entreprises à exploiter les recherches dans le sens des grands marchés avec beaucoup de fidélité de clientèle, etc., etc., et pas, par exemple, sur les maladies rares ou pas sur les maladies que je dirais rapidement non solvables. La deuxième conséquence, et j'y ai insisté lourdement, c'est un risque, au moins, de coupure du monde en deux. De coupure du monde ou de coupure même de chaque pays ou de chaque région en deux. Mais puisque nous sommes dans le mondial, parlons plutôt du monde. Et là, ce qui apparaît le plus clairement comme exemple, c'est la coupure entre le Nord et le Sud, puisque les réseaux sont à l'évidence plutôt construits sur les critères du Nord, enfin sur les critères des pays du Nord, et avec donc les savoirs émis par tous les budgets publics et privés de recherche qui sont beaucoup plus abondants au Nord qu'au Sud. Et bien entendu, nous allons retrouver cela dans le troisième point, c'est-à-dire dans le point correspondant à un exemple de cette polarisation et de ce dualisme à partir des migrations internationales de cerveau. Donc ce troisième point, je voulais simplement l'ouvrir sur quelque chose de plus large que l'économie pure et dure et les entreprises privées. On peut se demander ce qu'il en est de cette polarisation des savoirs au niveau de la planète, au niveau des nations elles-mêmes, Et donc, ceci peut nous amener à réfléchir aussi sur ce que peuvent faire les politiques par rapport, en termes de régulation, par rapport à ces effets cumulatifs d'appauvrissement et d'enrichissement. Les migrations internationales de cerveaux, prenons un terme neutre pour l'instant, sans parler ni de fuite ni de gain, les migrations internationales de cerveaux peuvent être considérées comme un révélateur d'une nouvelle division internationale du travail. Je l'ai dit tout au long de mon propos, l'enjeu central de l'économie cognitive, finalement, c'est la polarisation ou la répartition équitable. Donc la question qui se pose est relativement simple. Est-ce que les processus cumulatifs qui structurent l'espace de la concurrence, l'espace économique de la concurrence entre les firmes, est-ce que ces processus cumulatifs vont également structurer la division internationale du travail entre les pays? Pourquoi cette question prend-elle un tour nouveau aujourd'hui? Ou plus exactement, pourquoi se révèle-t-elle clairement aujourd'hui? Eh bien, je crois que jusqu'à la fin du XXe siècle, lorsqu'on n'avait pas encore pris conscience de l'importance de cette économie cognitive, on séparait très clairement deux questions en ce qui concerne les migrations de, disons, main-d'œuvre pour aller vite. D'un côté, dans une logique éducatrice, formatrice, scientifique, on se posait la question de la mobilité des chercheurs et on accordait plutôt une valeur strictement positive à la mobilité des chercheurs scientifiques en se disant que, en vertu de ce que j'ai dit tout à fait au début, cette mobilité permettait un enrichissement mutuel des scientifiques du monde entier grâce justement à la coopération accrue, grâce à la confrontation des dynamiques de recherche dans les différents pays et grâce à l'ouverture sur le monde des scientifiques nationaux. Donc d'un côté, on s'occupait de cela, c'est-à-dire encourager, inciter les chercheurs scientifiques à partir à l'étranger. Et d'un autre côté, lorsqu'on regardait les migrations de population, on s'intéressait à quoi? On s'intéressait à l'équilibre du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on était tantôt pour, tantôt contre, selon que le marché de l'emploi était de plein emploi, voire de suremploi, ou de sous-emploi. Et donc, il n'y avait pas de jugement de valeur objectif par rapport à ces migrations, qu'on considérait des migrations plutôt de force de travail plutôt que de savoir. Aujourd'hui, il n'en est plus de même, parce que dans ces migrations internationales, et curieusement, beaucoup de statistiques montrent que dans les migrations internationales, il y a finalement beaucoup plus de gens de haute qualification que de gens de basse qualification. Aujourd'hui, ces migrations internationales, vues dans ce que certains appellent le capitalisme cognitif, posent deux dilemmes graves, et deux dilemmes graves au gouvernement, justement. Premier dilemme, certes, la mobilité des chercheurs conserve une vertu positive pour la qualité de la recherche, mais il est clair qu'elle a aussi des effets pervers si les flux sont à sens unique et si cette mobilité des chercheurs entretient les processus cumulatifs dont j'ai parlé tout au long de cet exposé. Premier dilemme. Deuxième dilemme, encore plus précis, est-il bien raisonnable d'accroître les budgets publics nationaux de recherche lorsque une bonne partie de ces investissements vont, à la semelle des souliers, si j'ose dire, des scientifiques, apporter des munitions aux concurrents? Des munitions cognitives, mais la guerre, à l'heure actuelle, est sur ce plan, plus encore que sur le plan du pétrole, par exemple. Les statistiques globales tendent à nous donner une vision pessimiste des choses, si on les regarde en première analyse. On voit bien en effet qu'il y a des pays qui sont toujours gagnants et des pays qui sont toujours perdants dans ces migrations. Les pays qui sont toujours perdants, je commence par eux, et malheureusement on ne voit pas très bien ce que l'on peut faire pour y remédier, c'est la plupart des pays d'Afrique subsaharienne qui cumulent tous les inconvénients avec peu d'éducation, peu d'élite scientifique, aucun environnement favorable et qui par conséquent sont vraiment soumis à des émigrations cumulatives, émigrations de cerveau, aucune immigration, très peu de participation à des réseaux. Les pays toujours gagnants, tout le monde les connaît, ce sont les États-Unis, croit-on. Mais là, déjà, s'introduit une petite subtilité dans les statistiques. On s'aperçoit que les États-Unis ont acquis, sont soumis à une certaine vulnérabilité en fonction même de la politique qu'ils ont suivie jusqu'à présent. En effet, leurs laboratoires sont peuplés d'élites étrangères. Ces élites étrangères prennent vraiment beaucoup de place. Et par ailleurs, aux États-Unis, il y a, comme en France, une désaffection pour les études scientifiques. Donc, si d'aventure ces élites scientifiques étrangères repartaient dans leur pays, il y a fort à parier que les processus cumulatifs dont profitent les États-Unis à l'heure actuelle seraient sérieusement perturbés. Regardons justement ce qui se passe du côté des pays en voie de développement. Dans certains pays en voie de développement et en fonction d'une politique très précise, on constate qu'il y a des tendances à l'inversion de ces processus cumulatifs d'appauvrissement. Trois cas différents. La Corée, par exemple, la Corée et certes d'autres pays, Singapour aussi, qui, grâce à un bon système d'éducation, grâce au décollage de l'économie, grâce à une spécialisation sur l'informatique, ont permis le retour de pas mal de jeunes scientifiques qui étaient partis justement aux États-Unis pour prendre tout simplement les rênes de cette économie des technologies de l'information et de la communication. Donc, du côté de la Corée, on voit bien qu'il y a une cohérence dans tout ce modèle économique et social. Du côté de l'Inde, c'est autre chose. Du côté de l'Inde, depuis toujours, il y a un développement très fort du système scientifique et du système universitaire. Donc, certes, il y a beaucoup d'émigration de scientifiques indiens, et notamment vers les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais malgré cette émigration, il reste des pôles d'excellence suffisamment forts pour que, d'une part, il y ait une bonne recherche en Inde et que, d'autre part, cette recherche indienne soit intégrée dans des réseaux internationaux que peuplent par ailleurs les anciens émigrés indiens. Donc il y a là des processus cumulatifs qui s'amorcent dans l'autre sens via les réseaux de scientifiques. Enfin, en Afrique du Sud, eh bien, c'est la dernière stratégie dont je viens de parler, mais dans l'absolu, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud commence à pratiquer très systématiquement l'entrisme dans des réseaux constitués par des élites expatriées. Donc, tout n'est pas joué, et on peut vraiment se demander on est un peu à la croisée des chemins. Est-ce que nous allons assister à une substitution d'un capitalisme cognitif au capitalisme industriel avec transposition en quelque sorte de ce qu'était le capital financier sur le capital cognitif, c'est-à-dire la connaissance va à la connaissance comme le capital financier allait au capital financier, et donc une division du travail du même style que celle que l'on a connue entre pays du Nord et pays du Sud dans l'économie industrielle, ou bien est-ce que le monde entier va pouvoir profiter de cette miraculeuse ressource inusable, autoreproductrice et indéfinie puisqu'elle repose sur l'esprit humain, qui pourrait, si tout va bien, être la source d'un développement non seulement global, non seulement durable, mais aussi équitable. Je pense que la réponse n'est pas déterminée, il ne faut pas être déterministe en la matière. Nous avons vu qu'il y a des exemples de renversement des processus cumulatifs, mais je pense aussi que tout ce renversement des processus cumulatifs dont certains pays nous donnent l'exemple, nous ne pourrons, je n'ai pas parlé de l'Europe, en Europe les choses sont très, très ambiguës, donc je les laisse de côté, je pense que les pays européens notamment pourraient peut-être, et les organisations internationales, réfléchir justement à ces exemples pour que des pratiques politiques en matière d'éducation, en matière de création d'environnements favorables, en matière de lien entre la politique économique et la politique de recherche, en matière de mobilisation des élites scientifiques expatriées, permettent justement de donner toutes leurs chances aux pays qui ont le plus besoin finalement de cette ressource pour rattraper leur retard et pour engendrer un développement endogène. Voilà. Merci.
Oui, l'application de la logique économique à la logique scientifique a peu de chances d'être efficace si elle part de prémices erronées. La ressource scientifique n'est certes pas rare, mais elle est difficile. Elle est de plus en plus difficile, de plus en plus élitiste. D'autre part, elle est de plus en plus périssable. Contrairement
C'est
à ce
vrai.
Que vous dites, la ressource scientifique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Donc il y a un turnover permanent. Dans la mesure où la responsabilité de la logique économique est considérable dans les problèmes actuels de la planète, a-t-on raison de vouloir lui subordonner la logique scientifique et d'autres encore ?
Je réponds tout de suite. Oui, je ne pense pas que j'ai avoir conclu à la subordination de la logique scientifique à la logique économique. Sur les deux points que vous avez évoqués, je suis complètement d'accord et c'est vrai que la brièveté de mon propos ne me permet pas d'introduire beaucoup de nuances. Premièrement, sur le coût de la recherche scientifique, je suis complètement d'accord. Le coût de production de la recherche scientifique est de plus en plus élevé et ce coût est largement assumé à l'heure actuelle par des budgets publics. C'est la raison pour laquelle l'économie privée, en quelque sorte, a tout intérêt à capter justement ce qui sort de la recherche publique, puisque là, elle capte gratuitement quelque chose qu'elle va pouvoir exploiter, bien sûr, en rajoutant des investissements, mais dont elle n'a pas fait l'investissement premier. Donc ça, c'est clair, et certains économistes vous répondraient, moi pas, mais enfin certains économistes vous répondraient qu'il est nécessaire que ce soit la recherche publique qui le fasse, parce que sinon, de toute façon, l'économie privée ne le ferait pas, puisque justement, ça coûte trop cher à produire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième remarque que vous avez faite est tout à fait juste. J'ai parlé d'usure, je n'ai pas parlé d'obsolescence. L'obsolescence, c'est effectivement le fait que la recherche se périme, et en particulier se périme, et enfin tout précisément se périme au rythme des nouvelles découvertes. Ceci n'est pas grave lorsqu'il s'agit de recherches qui restent dans le domaine scientifique, parce que finalement, bon, on change de paradigme, etc. Bon, mais peu importe, mais c'est quand même parce qu'on savait quelque chose avant que l'on découvre quelque chose après. Donc il y a cumul, il y a autoproduction, et donc c'est en ce sens que la recherche qu'on possédait avant, elle ne disparaît pas complètement, elle reste la source de la recherche future. En revanche, dans l'économie, l'obsolescence, c'est quelque chose qui fait disparaître complètement la valeur économique d'une ressource cognitive. C'est-à-dire que si vous substituez un nouveau procédé de production beaucoup plus efficace à celui d'avant, vraiment l'investissement que vous avez fait auparavant, vous allez être obligé de le mettre à la casse parce que il y a un investissement qui va produire beaucoup, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement après. Donc l'obsolescence est une notion économique et qui justement rentre dans le débat sur quelle est la valeur finalement du savoir. Il y a une valeur en soi qui est la valeur scientifique et d'autre part il y a une valeur économique qui est effectivement sujette à évolution en fonction de l'empilement des différents savoirs. Donc c'est en ce sens que c'est pas la même logique. On ne peut pas reprocher aux entreprises, ça répondra peut-être à la dernière partie de votre intervention, on ne peut pas reprocher aux entreprises d'être dans une logique d'entreprise, c'est-à-dire dans une logique qui cherche du rendement. Et simplement, moi, je repousse la responsabilité au niveau des pouvoirs publics, parce qu'il faut que les pouvoirs publics sachent à la fois avoir une politique de recherche qui soit une politique de recherche scientifique au sens de la production de savoir scientifique, et d'autre part, sachent tirer le meilleur parti en termes économiques de leur pôle d'excellence, etc., etc. Je crois qu'il faut raisonner en termes de politique économique ou de recherche plutôt qu'en termes de combat de l'un contre l'autre. Je pense que la puissance publique là, doit arbitrer entre un certain nombre de choses. Mais vous me raccorderez qu'au niveau international, c'est difficile.
Il me semble que dans votre exposé, vous avez peu ou pas parlé de la formation post-universitaire dans l'entreprise. Or, il me paraît que c'est un domaine important parce que dans la diffusion du savoir, pouvez-vous me dire où se situe la formation donc, dans l'entreprise, dans la diffusion du savoir, en particulier en Europe ?
Je n'en ai pas parlé là encore parce que je n'avais pas le temps, mais quand j'ai parlé de coproduction de savoir par le travail, je pensais à cela essentiellement, c'est-à-dire que dans cette coproduction de savoir par le travail, il y a deux types de formations en entreprise. Il y a la formation formelle qui duplique un peu, enfin qui actualise finalement la formation qu'on a pu recevoir dans son éducation initiale. Et puis il y a la formation par le travail lui-même, à l'intérieur de son travail, qui passe par toute une série de procédures qui ne sont pas forcément formelles, qui peuvent être des apprentissages collectifs, qui peuvent être des projets communs, etc., etc. Mais bien entendu, c'est très important. Si j'en ai pas parlé, c'est pas parce que je trouvais pas ça important, c'est peut-être au contraire parce que ça me paraît appartenir de plein fouet, enfin vraiment très très fortement à cette idée d'apprentissage continu.
Moi, je voudrais repartir des deux métaphores du début de votre exposé sur le gâteau et la multiplication des petits pains. Moi, ce que je crains à l'heure actuelle, c'est que la recherche ne soit plus le lieu de la multiplication des petits pains, car on assiste de plus en plus à la pollution de la recherche par le secret. C'est-à-dire peut-être que les petits pains se multiplient, mais ils restent cachés. Et je pense que je me pose la question, est-ce que par ces modalités de secret qui sont souvent prônées par les industriels, est-ce qu'on ne risque pas de tuer la poule aux œufs d'or qu'est la recherche, c'est-à-dire comprendre et diffuser ce qu'on a compris.
Enfin, je pense comme vous, je vais préciser ma pensée, mais je pense comme vous. C'est-à-dire qu'effectivement, la vertu de la science, c'est tout de même le côté bien public de la science, hein, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Alors certes, il y a des gens qui n'ont pas la préparation nécessaire pour y avoir accès, mais au moins virtuellement, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès parce que c'est par le contact et le questionnement des autres que la recherche avance. Donc si on garde comme un stock de bijoux, quelque part, les découvertes scientifiques, que ce soit dans une entreprise ou dans un laboratoire d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que cette recherche soit moins féconde qu'elle ne l'aurait été si elle avait été diffusée, malaxée, si je puis dire, en coopération avec d'autres. Donc je suis complètement d'accord avec vous, mais là où je vous comprends moins bien, c'est que je ne pense pas que ce soit le fait des chercheurs. Je ne pense pas que les chercheurs aient envie de secret, puisque finalement, leur carrière est faite entièrement sur la publication de leurs travaux. Et donc, s'ils cherchent le secret à l'heure actuelle, ou quand ils cherchent le secret à l'heure actuelle, c'est très souvent lorsqu'ils cherchent, justement, entre guillemets, à monnayer leurs travaux de recherche, c'est-à-dire à transformer en brevet. À ce moment-là, il est normal que ce soit un secret, ou à le vendre à une entreprise qui elle-même va le transformer en brevet. Donc c'est au niveau du passage de l'ordre scientifique à l'ordre économique qu'effectivement le secret intervient. C'est pour ça que j'ai essayé d'opposer, si vous voulez, un monde dans lequel tout se diffuserait sans aucune entrave, etc., etc., et serait utilisé par tout le monde, et un monde dans lequel, peut-être d'ailleurs, comme vous le dites, en cassant la poule aux œufs d'or, la volonté d'internaliser, de s'approprier la connaissance fait que on stérilise d'une certaine façon la connaissance. Je n'ai pas parlé de tous les brevets qui restent dans les armoires, mais ça fait partie de ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des brevets uniquement pour que d'autres ne puissent pas faire certaines choses.
Oui, justement, par rapport à ça, vous avez fait des propositions en ce qui concerne les migrations internationales, en ce qui concerne la brevetabilité des savoirs et du vivant. Est-ce que vous formuleriez des propositions à partir de votre analyse ? sachant qu'il y a un certain nombre d'économistes qui au départ avaient des positions très modérées, commencent à se mobiliser face à certains effets pervers d'une brevetabilité qui aurait lieu trop en amont, avec des effets de brevets de dépendance. L'exemple, c'est le riz doré, où il y a plus de 40 brevets avant de pouvoir mettre sur le marché une variété de riz. Est-ce que vous êtes plutôt partisane de simples aménagements sur les droits de licence des brevets, ou est-ce que vous souhaiteriez qu'on revienne en arrière et qu'il y ait certains domaines, je ne sais pas, les séquences d'ADN, les algorithmes, qui devraient être exclus de la brevetabilité? Une deuxième question très courte, par rapport au processus de captation des savoirs dont vous parliez, je me demande si il n'y a pas une nouveauté importante de ces dernières décennies. On a toujours eu une captation, je pense au développement de l'industrie électrique au début du siècle, il y avait des brevets, des processus de conquête d'un secteur grâce aux brevets. Est-ce que la nouveauté, ce n'est pas la financiarisation de ces processus de captation avec la start-up, enfin l'accouplage entre labo public, start-up, capital risque qui finance ces start-up?
Bon, je vais commencer par répondre à la deuxième question, parce que la première, j'ai un peu de mal. Mais sur la deuxième, non, je ne pense pas du tout que ce soit au travers des start-up. Ça, c'est pas le problème. Les start-up, vous savez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Certes, elles vont éventuellement devenir très importantes. Il y a des bulles qui crèvent, etc., etc. Mais on a quand même tout à fait intérêt à ce que c'est pas à moi que vous devez dire ça, vous devez dire le contraire plutôt, puisque j'ai promu un incubateur. On a quand même tout intérêt à ce qu'il y ait une valorisation de la recherche scientifique, y compris de la recherche scientifique publique, sous forme de création d'entreprises qui vont exploiter justement cette recherche, dès lors qu'il s'agit d'une recherche qui est effectivement non pas purement scientifique, mais qui commence à être au niveau de la recherche appliquée, industrielle, en développement, etc., etc. Bon, parce que tous les chercheurs ne vont pas rester dans les laboratoires de recherche de toute façon, donc autant que les savoirs qu'ils ont dans leur tête deviennent de la valeur économique. Donc la finance, c'est autre chose, ça crée des bulles, ça fait des tas de choses très très... Ce qui est grave, c'est que ça n'aide pas du tout les start-up, en revanche. Donc, je laisse de côté ce problème de la finance. Je pense que je ne sais plus si je ne mélange pas vos deux questions, mais je pense que le problème de la brevetabilité, et donc de l'appropriation, finalement, de la recherche, de la transformation, disons, d'économie de deniers publics en investissement privé, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe, c'est un problème de savoir, vous avez raison de le souligner aussi pour les algorithmes, c'est un problème de savoir où on met le curseur. Et c'est un peu la même réponse que celle que je viens de vous faire. C'est-à-dire que si on en est vraiment à la découverte d'un gène ou à quelque chose comme ça, on n'a pas le droit, à mon avis, de capter ça pour en faire simplement une marchandise et pour transformer ça en source de profit. Non pas par idéal moral, c'est pas du tout le problème, mais c'est tout simplement parce que ça empêche les autres de continuer sur cette lancée. Hein, donc je me place pas en termes d'idéologie là, je me place en termes de développement des capacités de recherche. Alors vous me direz, les entreprises aussi vont développer de la recherche à partir de la recherche, etc. Mais elles vont les développer dans un certain sens, c'est-à-dire dans un sens finalisé. Elles vont en particulier cribler les molécules, les gènes, etc. en fonction du marché qu'elles sentent poindre à l'horizon. Donc je ne répondrai pas précisément ni sur les gènes, ni sur des choses comme ça, parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais je crois que le principe, il est là, c'est-à-dire que dans un enchaînement qui va de la découverte scientifique jusqu'au marché, il y a un moment où on peut effectivement mettre le curseur et on se dit, là maintenant, bon, on peut breveter parce qu'effectivement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire au niveau scientifique avec cette découverte. Maintenant, on va sur chacun des développements de cette science, on va pouvoir trouver de nouveaux produits, de nouveaux médicaments et tout ça. On a quand même intérêt à trouver de nouveaux médicaments quand ce ne serait que pour la santé et pas simplement pour l'économie. Mais il ne faut pas que ça remonte
vers la science, c'est-à-dire que ça remonte, que les injonctions du marché remontent vers les orientations de la science. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que contrairement, vous avez évoqué le 19e siècle, au 19e siècle, on avait un schéma linéaire extrêmement simple et lent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait des découvertes scientifiques, des découvertes techniques, et puis longtemps après, on trouvait les chemins de fer, l'ampoule électrique, etc., etc. Mais tout ça était linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait un amont et un aval. À l'heure actuelle, les choses ne se passent plus du tout comme ça, c'est-à-dire que les choses sont complètement imbriquées. Ce sont les questions, et notamment l'industrie pharmaceutique fonctionne comme ça, ce sont les questions justement de l'aval, si je peux encore appeler ça un aval, ce sont les questions du marché en quelque sorte qui orientent la recherche. Alors quand ça oriente la recherche industrielle, c'est normal. Si la recherche industrielle rebondit sur la recherche scientifique, c'est encore normal. Mais ce qui peut être grave, c'est lorsqu'il y a une espèce de court-circuit, c'est-à-dire lorsque le marché va en quelque sorte court-circuiter tous les développements éventuels de la recherche scientifique. C'est une réponse un peu théorique, si vous voulez. C'est très très difficile à appliquer, par exemple, sur la brevetabilité des logiciels et sur la brevetabilité des gènes. Je mets de côté complètement la question éthique en ce qui concerne les biotechnologies, mais même sur le lieu où on peut commencer à breveter, enfin le moment où on peut commencer à breveter, c'est extrêmement difficile puisque c'est plus linéaire, c'est circulaire. Voilà, c'est une réponse qui n'en est pas une, mais enfin, je comprends vraiment la question.
Oui, tout au début, vous parliez des quatre savoirs scientifiques. Le savoir-faire, l'information et le relationnel. Et j'ai l'impression qu'une grande partie de votre exposé est surtout centrée sur le savoir scientifique et la façon dont, économiquement, les choses se passent. Moi, une chose qui m'intéresse, c'est de voir comment ces différents savoirs ont une façon de s'appliquer plus ou moins efficace dans une société, avec des moyens, des supports, des fonctionnements qu'une autre. Par exemple, on évoque la façon dont le Japon a été capable de mettre en œuvre et d'appliquer des savoirs informationnels et des savoir-faire beaucoup plus rapidement que d'autres pays. Bon, c'est un exemple, mais je ne pense pas que c'est simplement le savoir ne suffit pas pour qu'il puisse produire de la valeur. Je pense qu'il y a tout un contexte, et une structure et un fonctionnement dans les pays et des relationnels et cultures qui permettent d'arriver à des résultats économiques et culturels.
Oui, monsieur, si vous posez la question, c'est que je me suis mal exprimée, parce que c'était quand même une bonne partie de mon propos, ça, effectivement, qu'il y a, je suis allée trop vite à ce moment-là, probablement, c'est que pour qu'il y ait création de valeur économique, hein, c'est à ce moment-là qu'on en parle, pour qu'il y ait création de valeur économique, pour qu'il y ait création de nouvelles activités, de nouveaux produits, il faut qu'il y ait continuellement entremêlement des différents savoirs. Entremêlement des différents savoirs, ce qui, par parenthèse, ne veut pas dire que les scientifiques n'ont que des savoirs scientifiques. Je rappelle quand même que les savoir-faire des scientifiques sont aussi importants que les savoirs théoriques. Donc, il ne faut pas utiliser les catégories de savoir pour voir les catégories d'agents. De même, les ingénieurs n'ont pas que des savoir-faire non plus, ils en ont. Mais ils ont beaucoup de savoir théorique et ils ont beaucoup de savoir relationnel. Ils savent ce que c'est que les systèmes, etc., etc. Toutes choses que ne savent pas forcément, par exemple, les élèves, les gens qui sortent de Normale Sup. Bon, donc, il ne s'agit pas de dire que les savoirs sont séparés et se rencontrent à certains moments. Et puis, non. En réalité, dans chacun d'entre nous, et ça je crois l'avoir dit, dans chacun d'entre nous, à chaque moment, pour une action déterminée, nous mobilisons des savoirs différents, des savoirs de type théorique, des savoirs de type pratique, des savoirs de type relationnel. Et c'est ça qui fait notre compétence. Pour chacun d'entre nous, la compétence est faite de tous ces savoirs à la fois. Et ces savoirs bougent en fonction justement de nos actions, c'est-à-dire que nous enrichissons les uns en faisant certaines choses, les autres en faisant d'autres choses, et à chaque moment, tout se remêle pour viser une action précise, et donc nous distribuons en quelque sorte nos savoirs au travers de la compétence appliquée à une action.
Merci Daniel Blondel.
Merci beaucoup.